Bonjour à tous. Ça va dans ce beau dimanche? J'ai vu quand j'étais jeune, on disait mois de septembre, ça y est, c'est fait froid. Et puis les années ont passé, après on a dit oh, il vaut mieux prendre les vacances en septembre, il fait plus beau qu'en août. Et puis maintenant c'est le mois d'octobre. Non mais vous avez vu le temps qu'on avait hier et qu'on va avoir aujourd'hui, c'est magnifique. Bientôt on aura décembre au balcon. Et Pâques au tison. Eh oui, c'est bien, la planète bouge sur son arc, c'est super, les gens trouvent ça génial. C'est bien, c'est bien. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 2 ce matin, s'il vous plaît. On va avoir la visite de la sœur Vivenot ce matin avec sa fille, son petit-fils. Et puis voilà, ils ne sont pas là. Que Dieu les bénisse, s'ils écoutent Internet, je ne sais pas. Matthieu 5, 1 à 2. Voyant des foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit. Et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire.
Amen.
Le sermon sur la montagne, c'est sans doute le plus connu des enseignements de Jésus-Christ. Par contre, il n'est certainement pas toujours très bien compris et puis il n'est certainement pas assez souvent mis en pratique. Mais c'est le plus connu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous présente en fait le programme de vie réservé à ses disciples. Un programme de vie. Jésus est complètement à contre-courant de la pensée moderne. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Jésus est complètement à contre-courant de la pensée moderne. Mes frères et sœurs, je vous parlais vendredi des 100 millions de morts pendant les guerres assassinées pendant le XXe siècle. Ce matin, en prenant mon petit déjeuner avec une belle tarte aux pommes que Michou m'a préparée, dont la pâte était faite par Rachel, les pommes venaient du parc, c'était magnifique. Mais j'ai lu le journal. Oh là là, mon Dieu. Savez-vous qu'en l'an 2009, 140 femmes en France ont été tuées par leur mari? Oh, mais c'est invraisemblable. C'est... On aime parler de la bonté du cœur des terriens. Et de leur culture moderne, leur façon formidable de penser. Ça engendre quoi? Tout de suite, après la guerre 39-45, alors les terriens, je vous rappelle que je ne veux plus dire le monde, les gens du monde, parce qu'on m'a reproché de dire les gens du monde, hein, et puis de faire de la discrimination. Alors je ne veux pas dire les gens du monde, mais je trouve un autre terme, c'est les terriens, parce que nous on n'est pas de ce monde, on est des extraterrestres. Et puis eux, ils sont des terriens, voilà, c'est les terriens. Alors les terriens, donc juste après la guerre, 39-45, ils ont été possédés à peu près tous par un esprit puéril. Ils ont eu un cauchemar terrible avec la guerre, mais ils se sont dit, voilà, maintenant on va reconstruire le monde. Alors c'était extraordinaire, les Glorieuses, on a reconstruit sur la base, n'est-ce pas, de la coopération entre les peuples, la paix, toutes ces choses. Et aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. On voit ce que ça a donné. Vous trouvez toujours très intéressant la façon de penser des gens de ce monde, ou des terriens. Vous savez, chaque génération se trouve mal à l'aise dans le monde qu'elle hérite. C'est normal que les jeunes se trouvent mal à l'aise dans le monde qu'on leur laisse en héritage. C'est normal. Et la réaction de ces jeunes aujourd'hui, eh bien, même si c'est un peu naïf, leur façon de faire... Eh bien, ça ne manque pas de sincérité. Il y a vraiment de quoi un peu se rebeller quand même. Bon, quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, c'était Love and Peace. Vous vous rappelez, les vieux, là hein? Qu'est-ce qu'on faisait? On distribuait, vous vous rendez compte, déjà, on allait voler des fleurs, puis on les distribuait dans la rue en disant « Love and Peace, paix et amour ». On faisait ça. T'as fait ça, Philippe, toi? Non? Non, t'as fait pas ça, toi, non? C'était aussi des plantes, mais c'était du hashish. Voilà, c'était différent. Quelle horreur. On disait, faites l'amour, pas la guerre. Et puis on était là, comme ça. Mais on n'a pas fait... C'est pas ça qui a fait que la guerre au Vietnam s'est arrêtée. C'était... Et puis, après, on s'est rendu compte que la richesse des pays du Nord, là où on vit, ben, en fait, c'était construit sur l'exploitation des pays du Sud, c'est-à-dire l'Afrique, où on va maintenant pour prêcher l'Évangile. Et puis... que la pollution se manifeste beaucoup à cause de notre style de vie de gaspillage. On gaspille beaucoup. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire un tableau trop noir, mais enfin, vous connaissez, hein, vous savez, vous êtes des gens intelligents, vous avez la télé, vous regardez les infos, vous avez les journaux, vous avez Internet, vous savez toutes ces choses. Mais on était sincères. Tous étaient sincères. Mais on s'est tous bien plantés. Et puis alors, les chrétiens, là-dedans, bon, vous allez comment dire que je bouffe du chrétien. Je suis désolé, les chrétiens, pendant tout ce temps-là, ils n'ont rien changé du tout à la face du monde. Ils sont juste chicanés entre eux. Il y avait une comédie musicale qui s'appelait Godspell à l'époque. C'était des gens d'Hollywood, ou je ne sais pas où, qui avaient monté ça, Godspell. Alors, à un moment donné, on voyait, c'était Jésus qui était là avec ses disciples, et on voyait les disciples qui se chicanaient. Et pour montrer comment les chicanes des chrétiens sont ridicules, chaque disciple avait dans sa main un bout de chiffon, et puis faisait « boum, tchika, boum, tchika, boum, tchik, tchik, tchika, boum, tchika, boum, tchika, boum, tchik, tchik ». Il se tapait avec les bouts de tissu, c'est pour montrer que vraiment, les chicanes des chrétiens, mon Dieu, des boum tchika boum tchika boum tchik tchik, des machins de, je dirais pas quoi, mais enfin, vous avez vu mon geste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en tant que personne? Qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'église? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est pas un peu trop tard maintenant? Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Quand Jésus est venu sur la terre, il a commencé, c'était déjà terrible à l'époque où il a commencé, c'était pas drôle du tout. Mais il a commencé quelque chose. Et je pense que quand on considère comment il a commencé, nous pourrions faire comme lui. Lui, il a commencé en annonçant la bonne nouvelle. Alors tout de suite, les évangéliques, « Ah, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui est mort sur la croix. » Non, Jésus n'était toujours pas encore mort sur la croix. Il n'annonçait pas la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il n'annonçait pas ça du tout. Il faut arrêter avec ça. Et je pense qu'on devrait commencer un petit peu à prêcher autre chose. Quelle bonne nouvelle il annonçait? Celle que le royaume de Dieu, promis depuis longtemps, était proche. Il a dit, je suis venu moi-même pour l'établir. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça. Évidemment que ceux qui rentrent dans ce royaume, ils sont sauvés. Mais c'est le royaume qui est la bonne nouvelle. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Voilà ce que Jésus prêchait. Il allait partout prêchant la bonne nouvelle de quoi? Du royaume, Matthieu 4, 23. Eh bien, je crois que c'est par là qu'il faut qu'on commence. Je pense que c'est le tournant principal qu'on va prendre maintenant dans notre communauté. Prêcher le royaume. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai prêché l'évangélisation, c'est très bien, il y a eu des fruits, il y a des gens qui sont convertis, qui sont entrés dans les églises, qui posent maintenant leur derrière comme des fidèles tous les dimanches matins à l'église, qui donnent leur dîme dans leur église, moi j'espère. Et voilà, et puis c'est bien, tout le monde pourrait être content, mais ce n'est pas ça que Jésus a dit de prêcher, il a dit de prêcher le royaume. Royaume. On va arrêter de prêcher des niaiseries maintenant. Il faut dire au peuple, sincère, soit. Mais dans l'erreur, il faut lui dire « repentez-vous », et le mot « repentez-vous » dans la Bible, tel qu'il est là, dans le grec, c'est « métanoïa », et « métanoïa », ça veut dire « transformation totale de mentalité ». Ah, c'est autre chose. C'est pas « je te demande pardon pour mes péchés, et puis je te demande que tu me pardonnes, puis que tu me purifies. Ah, ça y est, je me sens libre, je me sens pur, oh, c'est bien, je me sens tout dégagé. Jésus a pardonné mes péchés, je me sens bien, je suis bien, j'ai plus de culpabilité. » C'est pas ça. C'est changer de mentalité. Son message, c'est le nôtre, mes frères et sœurs. Le message, c'était repentance et justice. Le sermon sur la montagne, il montre ce que sont la vie et la société humaine quand elles sont soumises à l'autorité de Dieu. Voilà ce que montre le sermon sur la montagne. Les gens ne veulent pas se soumettre à Dieu. Alors, on leur prêche, on va continuer à leur prêcher, et s'ils ne veulent toujours pas, eh bien, tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On passera au suivant, comme dit Jacques Brel. Au suivant, on va continuer, on ne va pas s'arrêter à faire de l'acharnement thérapeutique sur des gens qui n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, soit parce qu'ils sont ignorants, soit parce qu'ils sont insensés. S'ils sont ignorants, on va les renseigner. Si après avoir été informés, ils n'en veulent toujours pas, ben on va les laisser. Il y a des milliards de personnes encore sur la terre. Amen. Alors, ne se soumettant pas à Dieu, les gens se créent eux-mêmes leur propre malheur. Après, ils disent, oui, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Puis après, il y en a même qui disent, oui, c'est Dieu qui a envoyé le sida. Et c'est Dieu. Non. Les gens ont créé ça eux-mêmes. Eux-mêmes. C'est ce qu'ils veulent. Eh bien, OK. Qu'ils assument leur choix crétin. Et nous, on va vivre autrement. Et on va enseigner pour que les gens vivent autrement. Amen. Amen. La société, cette vie nouvelle que Jésus crée, se caractérise, mes frères et sœurs, par la différenciation. La différenciation. Les vrais disciples, les citoyens du royaume de Dieu, doivent être fondamentalement différents des terriens, des autres gens. Différents. Ils ne se coulent pas dans le moule de tout le monde, de ce monde pourri. Ils ne se coulent même pas dans le moule des religions. Ils se laissent influencer par Jésus-Christ. Et comme ça, en faisant cela, ils prouvent leur filiation, c'est-à-dire ils prouvent le fait qu'ils sont fils et filles de Dieu, fils et filles du roi, citoyens du royaume. En faisant quoi? Je répète, en étant différents. Pas simplement en allant à l'église avec une Bible sous le bras. Et puis ensuite, en retournant au boulot, puis en ne disant jamais un mot de Jésus. Ou en ne prenant jamais parti pour la façon dont Jésus dit de faire ou d'être. La parole clé, mes frères et sœurs, du sermon sur la montagne, c'est Matthieu 6, 8. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Terrible, hein? Autrefois, Dieu avait déjà dit ça à son peuple d'Israël. Il leur avait dit dans Lévitique 18, 3, il leur avait dit, ne faites pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont commencé à imiter les nations, ils ont fait tout ce que les nations faisaient. Ils n'ont pas suivi Dieu, ils n'ont pas suivi Dieu. Bêtement, ils ont copié les nations impies et résultat, ben, il est là devant vos yeux. Israël a été dispersé, Israël est persécuté encore aujourd'hui, c'est des horreurs en tout genre, et ben voilà, c'est comme ça. Deutéronome 28, hein? Si tu obéis, t'arrives ça, si tu désobéis, t'arrives ça. C'est pas plus compliqué. C'est un royaume, il y a un roi, il y a des lois. Si on désobéit aux lois, si on transgresse, eh bien, il y a un châtiment. C'est normal. Non? Si? Oui? Eh bien, c'est la même chose pour l'Église. L'histoire s'est répétée. L'Église catholique, les protestants, les évangéliques, et particulièrement les pentecôtistes, qui ont tellement reçu, ils se sont organisés comme ils l'ont voulu, méprisant l'ordre établi par Dieu, mais, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, Jésus veut que ses disciples brillent comme des lumières dans ce monde où l'obscurité est majoritaire. On brille dans les médias, surtout par les scandales, par des foudingues qui veulent brûler le Coran, ou par des scandales de toutes sortes, hein, c'est pas difficile à trouver. La justice des disciples de Jésus, la Bible nous dit qu'elle doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Mais si vous allez étudier la vie des pharisiens, vous allez voir, c'était terrible, hein? Notre justice doit dépasser celle-là. En quoi? Dans le comportement et dans le zèle pour Dieu. L'amour des disciples du roi, il doit être plus grand et leur ambition, elle doit être plus noble que celle des terriens. On doit être plus ambitieux. Alors, il y a un contraste entre les normes chrétiennes et les normes de la société des terriens. Il y a un immense contraste. Par exemple, nous ne devons pas aimer seulement ceux qui sont comme nous, parce que ça, c'est les terriens qui le font. Nous, on doit aimer nos ennemis. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire d'aimer nos ennemis. Ensuite, dans le royaume de Dieu où nous vivons, nous nous adressons à notre Père avec humilité. Les terriens ne font pas ça. Les terriens, ils ont des rites stupides. Ils croient être agréables à Dieu en répétant sans arrêt les mêmes ritournelles. Ils ont le même livre que nous, hein, mais ils ne comprennent pas, ils ne lisent pas, je ne sais pas, enfin. C'est quand même écrit, ne répétez pas, ne vous prosternez pas devant les idoles, etc. Et ils crient comme des malades, ils se comportent d'une façon indigne de la majesté du roi des cieux, du roi de la terre, d'une façon complètement indigne. Et ensuite, ce sermon, il nous montre que les païens, ou terriens, se préoccupent de leurs besoins matériels personnels. Et nous, Jésus nous dit que nous devons rechercher le royaume et la justice de Dieu en premier, que toutes ces choses, ça nous sera donné par-dessus. Frères et sœurs, nous sommes citoyens d'un royaume. En tant que citoyens d'un royaume, eh bien, nous devons payer notre impôt dans ce royaume, c'est la dîme. Ce royaume, c'est l'Église. On ne paye pas notre... Vous qui êtes français, vous payez vos impôts où? Ah ben moi, ce que je devrais à l'État, ben je préfère le donner au petit vieux, hein, ou je préfère le donner à un petit jeune en Afrique, ou bien... C'est quoi ce cirque? Si vous faites ça en France, vous allez être foutu en prison. Non ? Du moins, vous allez avoir des problèmes avec l'État. Eh bien, c'est la même chose en tant que citoyen du royaume, qui est l'Église, citoyen du royaume de Dieu, c'est l'Église, eh bien, c'est là qu'on paye l'impôt. Pour que ce royaume ait de quoi établir efficacement la justice, c'est-à-dire ce qui est juste, et pour que ce royaume s'étende, c'est-à-dire gagne du terrain, hein, pour que, et ça, c'est par le moyen de l'évangélisation. Frères et sœurs, sur Facebook, Osborne fait un appel d'argent. Il part en Inde, 87 ans, frère Osborne. 87 ans, il part en Inde, il fait un appel d'argent, il veut donner 30 000 livres. Chaque livre coûte 5 dollars. Il fait un appel d'argent. Nous allons donner, amen, nous allons donner pour que frère Osborne puisse partir avec des centaines de livres qui viennent de chez nous. Amen, parce que voilà, ça c'est une bonne chose. Ça ne fait pas partie de la dîme, ça fait partie des offrandes. Nous offrons ça à frère Osborne. D'accord ? Pour qu'il puisse faire son ministère. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alléluia. Ça, c'est une bonne chose. Vous voyez la différence entre dîme et offrande. Pour que le royaume de Dieu s'étende par le moyen de l'évangélisation. C'est un devoir. C'est un devoir. Et se soustraire à ce devoir, c'est être hors de la loi d'une façon volontaire dans le royaume. C'est être hors de la loi. Ou alors, c'est être un sans-papier dans le royaume. On devrait bien payer mes impôts, mais je peux. Point, parce que si je les paye, je me fais renvoyer dans mon pays parce qu'ils ont. Vous voyez ? Et puis, Jésus, il situe la morale voulue dans son royaume bien au-delà de celle des scribes. Et il situe notre consécration bien au-dessus de la piété hypocrite des religieux de l'époque, des pharisiens. Alors, vous voyez, en tant que disciple, en tant que citoyen du royaume de Dieu, sur la terre, que Jésus est venu établir sur la terre, nous avons à nous distinguer sur deux plans. Premièrement, sur le plan de ce que les terriens appellent l'Église, mais qui en réalité n'est que synagogue et compagnie. Synagogue, ça signifie assemblée. Ce n'est pas l'Église, c'est des assemblées. Ce n'est pas l'Église. Deuxièmement, donc on doit se distinguer par rapport à ça. On ne doit pas être comme ça, et on doit faire autrement, et on doit agir autrement. Ensuite, deuxièmement, on doit se distinguer sur le plan du monde profane, en étant différent, premièrement, de ceux qui ont une religion, et différent de ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà sur les deux plans sur lesquels on doit être différent. Mais il faut que ça soit clair. Mes frères et sœurs, le sermon sur la montagne, c'est le discours le plus non-conformiste qui existe. Vous pouvez en chercher partout, il y a plein de discours non-conformistes. Eh bien, les meilleurs se sont inspirés du sermon sur la montagne. C'est vrai. Le sermon sur la montagne, il nous invite, il nous oblige à un système de valeurs et à des normes éthiques qui sont très élevées, très élevées. Il trace vraiment les grandes lignes de notre engagement, mes frères et sœurs, le sermon sur la montagne. Quand une personne s'engage à suivre Jésus-Christ comme roi, pas comme Seigneur, Sauveur, Alléluia, tout mou, tout doux. Non, 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 comme roi. Bien sûr, Seigneur, ça veut dire roi. Mais maintenant, on a tellement pris l'habitude de dire Seigneur. On ne sait plus que ça veut dire roi, que ça veut dire maître, Seigneur. Eh bien, une personne qui s'engage à suivre Jésus comme roi, il s'engage à avoir des attitudes différentes face à l'argent, face à ses ambitions, face à son mode de vie, dans ses rapports avec les gens, dans ses rapports avec la nature, il doit être différent. Le non-conformisme chrétien, c'est une bonne vie vraiment humaine, dans le sens noble du terme humain. Rien de mal. Rien de mal à être non-conformiste quand on est chrétien. Mais c'est une vie qui doit être vécue sous la direction de Dieu. Dans l'amour, et non pas simplement, comme du temps de Moïse, sous une loi rigide. Alors, la première partie du ministère de Jésus, si vous regardez sa vie, parce que ça, le sermon sur la montagne, c'est au commencement, c'est au chapitre 5 de Matthieu. Il y en a 28, je crois, hein, de chapitre. Chapitre 5. Avant ça, il nous est dit qu'il parcourait toute la Galilée, qu'il enseignait, hein, et puis qu'il guérissait les malades, et c'est comme ça qu'il a fait sa réputation, Matthieu 4, 25. Et puis ensuite, quand il a eu des foules, il s'est mis à enseigner. Frère Branham a fait la même chose. Frère Branham a fait la même chose. Il a commencé par enseigner des choses gentilles, tout à fait classiques. Et puis, faire des miracles extraordinaires. Et quand il a eu les foules, eh bien, il a commencé à enseigner les choses profondes. C'est le programme normal, c'est ce que Jésus a fait. Alors les gens disent, oh, frère Branham, il avait bien commencé, mais il a mal fini. Pourquoi il a mal fini? Parce qu'il vous a dérangé, c'est ça. Il vous a dérangé, alors vous dites qu'il a mal fini. Non, Jésus non plus, il n'a pas mal fini. Oh, il y en a beaucoup qui disent qu'il a mal fini, il a fini sur la croix, il a mal fini. C'est rien comprendre aux choses spirituelles, c'est rien comprendre aux choses spirituelles. Jésus a vu les foules qui le suivent à cause de sa réputation, due au miracle, et alors il est monté sur une montagne, c'est-à-dire il s'est mis en haut, il s'est assis, ses disciples se sont assis autour de lui, et il a pris la parole, il a commencé à enseigner, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il était sur la montagne, c'était un signe, il était sur la montagne comme Moïse, lui aussi, était un jour sur une montagne. Et il était sur une montagne pour y donner un message. Moïse a donné son message, Jésus a donné son message. Mais Jésus était supérieur à Moïse. Son message, c'était une bonne nouvelle, mais c'était aussi une loi. Mais c'était une bonne nouvelle. Jésus, il commence là, en enseignant, à former un noyau pour fonder le nouvel Israël. Pour former son nouveau royaume, son église, acte 2. Alors il y a 12 apôtres qui correspondent aux 12 patriarches, aux 12 tribus d'Israël. Et puis Jésus se déclare maître, il se déclare seigneur. Il donne ses propres interprétations de la loi de Moïse. Il promulgue ses propres enseignements et il ordonne qu'on obéisse, qu'on lui obéisse. Un jour, il va même jusqu'à mettre ses disciples devant un fait terrible. Il leur dit, maintenant, vous devez porter mon joug. Comme vous avez porté celui de Moïse, maintenant vous portez le mien. Alors, quand on regarde Moïse, inspiré par Dieu, lui, il a écrit 5 livres. Et Jésus a dicté à Matthieu un évangile. Et son évangile, il est aussi partagé en 5. En 5. La première partie se trouve à Matthieu 7, 28. Et à Matthieu 7, 28, il est écrit, « Quand Jésus eut achevé, et voilà, il a achevé quelque chose, Matthieu 7, 28. » Au suivant. La deuxième partie, c'est dans Matthieu 11, 1, et à la fin de Matthieu 11, 1, il est écrit, « Quand Jésus eut achevé, fin de la deuxième partie. » Puis, dans Matthieu 13, 53, et là il est écrit, « Quand Jésus eut achevé, point. » Troisième partie. Et puis, dans Matthieu 19, 11, où il est écrit, où Jésus dicte à Matthieu, « Quand Jésus eut achevé. » Et puis, dans Matthieu 26, 1, et là il est aussi écrit, « Quand Jésus est achevé. » Frères et sœurs, Matthieu, c'est le Pentateuque de Jésus. Mes frères et sœurs, le salut en Jésus-Christ est décrit comme le nouvel Exode, Matthieu 2, 15. Notre vie de disciple, c'est une fête qui célèbre notre Dieu, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, 7, 8. Alors mes frères et sœurs, ce sermon, est-ce qu'il est encore applicable aujourd'hui? Beaucoup disent que non. Même les chrétiens disent que non. Ils disent, c'est pas possible. Mais mes frères et sœurs, oui, c'est possible. Les béatitudes, elles nous parlent de 8 aspects du caractère, 8 aspects du caractère et de la conduite des citoyens du royaume de Jésus-Christ sur la terre. 8 aspects de la conduite. Dans ce sermon, Jésus nous parle du sel et de la lumière, c'est-à-dire il nous indique comment les habitants du royaume qui sont à l'intérieur de ce royaume terrestre, de Dieu sur la terre, il nous indique comment les habitants de ce royaume peuvent exercer une influence dans la société des terriens, en étant le sel, en étant la lumière. Mais s'ils persévèrent évidemment à continuer à donner des signes qu'ils sont dans le royaume. Les antilois, parce que vous avez des antilois qui disent oh, « on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce ». Eh bien, les antilois ont tort quand ils affirment que nous ne sommes sauvés que par la grâce. Ils ont tort. Jésus lui-même, il déclare qu'il est venu non pour abolir la loi, donc il n'est pas venu pour l'abolir, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Et il est même allé jusqu'à dire que la grandeur de son royaume dépendait de l'obéissance des citoyens du royaume. Il affirme clairement que l'entrée même du royaume, l'entrée pour pouvoir entrer dans le royaume, ce n'est pas possible sans une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Rien que pour entrer, mais après il faut pouvoir y rester. Et alors là, il donne 6 illustrations de cette justice. On trouve ça dans Matthieu 5, 21, 48, toujours dans le Sermon sur la montagne. 6 illustrations de ce que c'est cette justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Alors, on joue aux chrétiens ou on est véritablement des citoyens du royaume? C'est ça la question. Jésus, comme Moïse, parle de ces grandes choses. Meurtre, adultère, divorce, serment, vengeance, amour. Ces 6 choses-là, il les développe à sa façon. Il va dire, vous avez entendu dire que par Moïse, mais moi je vous dis que. C'est terrible. C'est terrible ce sermon sur la montagne. Quand vous méditez ça, c'est terrible. Il ne plaisante pas. Il ne plaisante pas du tout. Alors, qu'est-ce que Jésus rejette? Qu'est-ce qu'il rejette? Mais il ne rejette pas la loi, mes frères et sœurs. Il va plus loin que la loi. Il est plus sévère que la loi. Mais il rejette la tradition des légalistes, c'est ça. Et c'est là que nous devons faire attention. Et c'est là qu'on risque de tomber si on ne fait pas attention. C'est de tomber dans des traditions légalistes. Et c'est là que Dieu doit, il doit vraiment nous garder, nous protéger. On doit se mettre vraiment à l'écoute pour ne pas tomber dans cette tradition des légalistes. Il y a une nuance, c'est très fin. Jésus affirme l'autorité des Écritures anciennes, il ne les annule pas. Alors que chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, personnellement, se ressaisisse véritablement. Parce que Dieu s'est dévoilé en Jésus, mais c'était toujours Dieu. C'était toujours le même Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. Pas le fiston de Dieu qui, lui, est plus gentil, plus amour, plus compatissant, plus tolérant. Puis heureusement encore, il y a encore plus gentil, plus compatissant, plus amour et plus tolérant, il y a sa maman. Vous voyez comment l'homme arrive à transformer, à tordre des choses. Non, Jésus, c'était Dieu voilé dans la chair, toujours le même Dieu. Juste, amour, oui, mais juste. Alors, on va commencer une étude sur le sermon sur la montagne, afin de connaître la volonté de Dieu pour ceux qui sont sortis du système des terriens pour entrer dans le royaume, pour être citoyens du royaume. Ça vous intéresserait? Prions afin que nous soyons éclairés, pour que nous soyons guidés, afin que notre intelligence spirituelle soit vraiment ouverte à l'Esprit de Dieu. Je vous avais dit, vous savez, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, l'Église au départ était juive, et puis ensuite c'est devenu païen, c'est-à-dire non-juif, gentil, l'Église des non-juifs. Et puis on a rejeté beaucoup de choses. Puis on croit que c'est juste, on croit que c'est normal. Non, c'est pas juste, non, c'est pas normal. Il y a des choses que nous devons savoir. Jésus a enseigné certaines choses très précises et il faut que nous sachions ces choses-là. Il nous faut être éclairés, il nous faut être guidés, que notre intelligence soit vraiment renouvelée. Jésus est le Seigneur, il est Seigneur dans son royaume. C'est vrai que c'est le diable qui mène le bal dans le monde des terriens, mais dans le royaume, c'est Jésus le Seigneur, c'est Jésus le roi. Est-ce que vous êtes dans le royaume, citoyen du royaume, ou est-ce que vous êtes ici avec un visa de touriste? C'est ça la question. Alain Williamo, ça fait des années qu'il est touriste. Il a un visa, c'est plus un visa de touriste maintenant, depuis 25 ans qu'il est là-bas. Mais il n'est pas burkinabé. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être très bien dedans, puis ne pas être dedans vraiment. Puis on peut être dehors, et puis être dedans quand même. Par exemple, l'ambassadrice de Bulgarie, que je vais rencontrer là, au mois de 15, la semaine prochaine, eh bien, elle est du royaume de Bulgarie, mais elle n'est pas dedans. Elle est à Paris, mais elle est bulgare. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pareil. Nous aussi, où que nous soyons, est-ce que nous sommes vraiment citoyens du royaume? Ça, c'est très important. Très important de le savoir. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt et il est temps de mettre les pendules à l'heure dans notre propre vie et dans notre communauté, évidemment, bien sûr, mais ça commence par nos propres vies. Que Dieu ait pitié de son peuple, ici particulièrement en France, que son peuple se repente, se mette à vivre comme Dieu le veut, comme le Seigneur le veut, comme le roi le veut. Amen. Merci Jésus de nous éclairer. Merci de nous continuer à me guider, de m'inspirer pour que je trouve les pensées que tu veux donner à ton peuple, afin que nous puissions nous ressaisir et ne pas être simplement des gens ballottés de réunion en réunion, de machin en machin, et de bouquin en truc, mais que nous ayons véritablement à l'essentiel, à ce que tu veux, à ce que tu as déclaré. Ces paroles que nous avons lues et relues, et qui nous glissent sur le dos comme l'eau glisse sur les plumes d'un canard. Je te prie, Seigneur, que cette eau de ta parole ne glisse plus sur nous, mais qu'elle pénètre au plus profond de notre cœur, afin que nous puissions être véritablement des enfants dignes de ce royaume. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.